RMC, Intégral Tour.
Tu te mets sur le vélo, voilà, tu te mets bien droit, voilà.
Christophe Cessieux.
Et tu poses j'attaque le col, ok?
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la route du Tour, direction les Alpes aujourd'hui pour le peloton de ce Tour de France, 16e étape, 201 km à travers les paysages magnifiques des Alpes, entre Bourg de Péage et Gap, où nous nous trouvons avec toute l'équipe évidemment. Il y en a qui sont déchaînés, déjà qui sont en pleine forme. Ça doit être le fait d'avoir vu la pancarte Provence, Alpes, Côte d'Azur, c'est ça? Bonjour Fédéo.
Bonjour à tous. Effectivement, il fait beau, il fait frais aujourd'hui. À Gap, on a toujours des conditions d'arrivée ici, en tout cas pour travailler, qui sont excellentes dans un parc arboré au bord de la rivière. Nous sommes en PACA, effectivement, dans le département des Hautes-Alpes. Ça y est, le deuxième volet montagnard de ce Tour de France après les Pyrénées et trois étapes de transition. La course arrive dans les Alpes, ou plutôt les Préalpes, les Alpes du Sud. Demain, journée de repos, puis trois.
On est dans les Hautes-Alpes, on n'est pas dans les Préalpes quand même. Les Hautes-Alpes, c'est... Hein,
oui,
attention,
le parcours de l'étape n'est pas encore ultra montagneux.
On n'est pas dans les grands cols des Alpes,
ça,
évidemment. Mais dans tous les cas, dans des paysages magnifiques ici. Avec deux grosses difficultés quand même à franchir avant l'arrivée tout à l'heure à Gap. Le col de Cabre et le col de Mancé. De Mans, le col de Mans,
bien connu des coureurs du Tour de France. Et puis derrière l'ascension du col de Mans, il y a la descente de la Rochette. On aura l'occasion d'y revenir.
Il s'en est passé des choses dans
cette fameuse descente.
Très bien, il est là, vous l'avez entendu. Donc c'est Fredo, notre devin, qui va tenter de nous trouver le nom du vainqueur d'étape. On va accueillir dans quelques instants le druide, mais je ne sais pas où il est. Il a vu la rivière, je pense qu'il est allé pêcher peut-être. Allez nous ramener une petite truite pour le repas de ce soir. Puisque nous serons au bord du lac de Serponçon ce soir. On sera pas bien là. Hein, magnifique. Il est là, notre druide. Il est revenu de la pêche avec quelques beaux poissons. Salut Cyril.
Oui. Je suis revenu avec quelques gardons. D'ailleurs, je crois que compte tenu de tout ce qui se passe sur ce Tour de France, gardons notre calme.
Oh, très bien. Oh là là, mais depuis qu'on le lance sur des titres à trouver, il trouve des titres à tout maintenant. Bravo. Moi, je dis bravo le druide. Il est en pleine forme au début de cette troisième semaine. C'est pas le cas de tout le monde. Allez, il y en a un autre qui est en pleine forme, c'est évidemment Georges Quirino sur sa moto, notre petit guerrier accompagné de son gros guerrier. Ils sont bien tous les deux, un vrai petit couple. Bonjour messieurs.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Ah ouais, c'est drôle. Ah ça, je trouve ça très drôle.
J'adore.
Ouais. Oui, bonjour.
Refais-le, Georges. Georges a un don d'imitation incroyable. Vous savez qu'il imite par exemple parfaitement le patron du Tour de France.
Marco. Non, avec Marco, on a bossé le Cyril Guimard, hein, Marco.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Et comme ça, c'est comme ça que vous vous parlez. Alors, chaque fois que vous voyez le matin, c'est oui, bonjour, d'accord. Tu veux pas nous faire une imitation de Christian Prudhomme, parce que tu es très fort. Il faut avoir les gestes aussi, hein, parce que les gestes sont importants. Non, pas d'imitation.
Non, on va pas le faire, non.
Il veut pas être viré du Tour.
Ouais, on va essayer de rester en course. Tu sais, nous, la voiture numéro 1 de Christian Prudhomme est à côté de nous. Hein. C'est pas comme toi, monsieur, tranquillement, à Gap, dans ton camion, à l'abri de tout le monde, à l'abri de tous les directeurs sportifs. Nous, on est dedans, monsieur. On peut pas tout se permettre.
Mais Christian Prudhomme a beaucoup d'humour.
Bonjour, oui, monsieur.
Hein, non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Allez, Georges, avec Marco, tranquille, sur les routes de ce Tour de France. Le paysage est magnifique aujourd'hui.
Il est moins chaud aujourd'hui.
Ah, un petit peu moins chaud, ça c'est pas mal.
Oui, il fait un peu meilleur. Bon, il fait quand même 33 degrés sur les routes du Tour. Là, actuellement, c'est ce que le thermomètre nous affiche. On commence à être dans un décor de montagne. On est toujours dans le département de la Drôme. On va bientôt rentrer dans les Hautes-Alpes dans quelques kilomètres. Il y a les camping-cars encore sur le long de la route. Il y a les rivières que l'on passe. On voit des gens qui se baignent, les gens torse nu. Donc oui, ça sent bon quand même l'été aujourd'hui sur les routes du Tour.
Très bien, on fera la petite carte postale avec toi dans quelques instants. Et puis on accueille en musique, comme tous les jours, notre barre de breton dit Pilux pour les intimes.
Salut Christophe.
Comment ça va?
Ça va très bien, c'est une chanson pour Georges et Marco et qui parlait de l'été. Et on est quel jour?
Le 20 juillet, l'anniversaire de ma maman.
Quel jour de la semaine.
Ah. On est lundi.
On est lundi.
Le lundi au soleil.
On pourrait le passer à s'aimer. Le lundi au soleil. On serait mieux dans l'odeur des foins. On aimerait mieux cueillir le raisin. Ou simplement ne rien faire. Le lundi au soleil.
Ah oh oui, bravo, bravo.
Qu'on n'aura jamais.
Et non.
Le soleil sur le Tour de France. Merci Pierre-Yves qui égaye nos débuts d'après-midi avec sa petite chanson. Il est doué, il faut bien le dire. On comprend qu'il ait fait une si grande carrière dans le show business
et dans le musical
et dans le journalisme. On peut pas tout faire et tout savoir bien faire. En tous les cas, au niveau de la chanson, c'est vrai qu'il s'y entend. Voilà, on accueillera d'autres membres de la Dream Team tout à l'heure. Lucho, par exemple, qui chasse la musette et qui chasse ses spécialités. Aujourd'hui, je pense qu'il va trouver de quoi faire pour la Lucho Mobile. C'est donc la 16e étape de ce Tour de France. Fred, on va faire un premier top course parce qu'il se passe des choses. Il y a du monde à l'avant. C'est une étape pour les baroudeurs et les baroudeurs sont sortis aujourd'hui le premier top course du jour.
RMC Top Course.
Avec une longue étape aujourd'hui entre Drôme et Hautes-Alpes, sous le soleil, les coureurs qui longent la Drôme depuis de nombreux kilomètres maintenant, via Cré, Saillant, Die, Luc-en-Diois, bientôt le col de Clap qui va marquer l'entrée de la course dans le département des Hautes-Alpes. 82 kilomètres à parcourir encore sur ces magnifiques routes pour cyclistes aguerris ou non. 23 coureurs échappés, vous avez bien entendu, 23. Il y avait de la place pour les attaquants de loin, pour les baroudeurs aujourd'hui avec cette étape de moyenne montagne. 23 coureurs, donc 4 Français. Christophe Riblon, le coureur de l'équipe AG2R La Mondiale, vainqueur de l'Alpe d'Huez en 2013. Pierrick Fédrigo, le vétéran de la formation Bretagne Séchée Environnement. Un autre vétéran âgé de 36 ans, Thomas Vauclair, que l'on ne présente plus, le leader de la formation Europcar. Et puis Pierre-Luc Perrichon, coéquipier de Fédrigo chez Bretagne Séchée. Notez la présence pour la troisième journée consécutive dans l'échappée aujourd'hui. Devinez de qui ? Le maillot vert, Peter Sagan, a encore fait la rafle dans le seul sprint intermédiaire de la journée. Peter Sagan qui a bel et bien endossé sur ce Tour de France un costume de franc-tireur et non pas de sprinter. Il a jeté son dévolu sur le classement du maillot vert et non sur les victoires d'étape. Également présent le Belge De Gendt, le champion du Luxembourg Jungels, l'Espagnol Dani Navarro, attention à lui pour la victoire d'étape, le coureur de l'équipe Cofidis, Matteo Trentin, l'italien de l'équipe Equix Quickstep, et puis le champion de Norvège Boasson Hagen chez MTN Kubeka, accompagné de l'érythréen Tekla Imanot. 23 coureurs en tête à 81 km de l'arrivée, dernière avance, dernier pointage, 10 minutes 30 sur le peloton maillot jaune qui a laissé filer le coup aujourd'hui.
Avance confortable donc pour les 23, ces baroudeurs. Il y a quand même pas mal d'anciens vainqueurs d'étape sur le Tour de France dans ces 23 là. Je crois qu'il y en a 6 en tout, c'est une information qu'on vient de nous communiquer. Thomas Vauclair évidemment,
bien sûr,
qui a remporté plusieurs étapes sur les routes du Tour.
Riblon, Fédrigo, ouais. Sagan, je trouve là aussi Matteo Trentin, déjà exactement, vainqueur de deux étapes.
Il en manque plus qu'un.
Boasson Hagen, vainqueur de deux étapes.
Il est impressionnant. Donc 6 vainqueurs d'étapes dans les 23 qui sont à l'avant de la course. Cyril, un petit mot sur cette échappée. 10 minutes 33, 80 km de l'arrivée avec les costauds, les bisons comme les appelait hier Thibaut Pinot. Ça peut aller au bout cette histoire-là.
Ah, c'est bien engagé, bien engagé, parce que là encore, dans ce groupe de 23, il y a de la qualité. Il y a de la qualité, il y a des opportunistes qui ont de la qualité également. Tout le monde semble bien décidé à collaborer. Alors, on verra un petit peu plus clair, on va peut-être pas se prononcer de façon définitive, car il faudra quand même voir qui c'est qui se cabre dans le prochain col, le col de Cabre, bien sûr, qui arrive dans une dizaine de kilomètres. Au sommet, on pourra avoir une situation beaucoup plus précise et vraisemblablement plus de certitude sur la réussite ou sur la possible non-réussite de cette échappée.
Évidemment, si ça attaque dans le col de Cabre, ça sera sans doute difficile pour les hommes de tête d'aller rallier l'arrivée devant, mais rien ne nous dit qu'il va se passer quelque chose dans ce col de Cabre, Fred, parce que non. Là, on arrive dans les Alpes, on n'est pas encore là, les favoris pour le général vont pas forcément se montrer, à moins que Nibali tout à l'heure tente quelque chose. Hein,
oui, mais pas dans la descente. Pas dans le col de Cabre, dans la descente de la Rochette, peut-être sur le haut du col de Mans, sur les hauteurs de Gap. Mais le col de Cabre, c'est quand même à 70 km de l'arrivée. On est encore loin. Non, aujourd'hui, c'est peut-être une nouvelle étape de transition avec une nouvelle fois deux courses dans la course. La course pour la gagne de l'étape et la course entre prétendants au classement général. Il y a quand même moyen de mettre Christopher Froome en difficulté. On en parlera dans quelques instants, la descente de la Rochette, particulièrement périlleuse à 7-8 km de l'arrivée.
Hier, c'était la dernière étape pour les sprinteurs avant les Champs-Élysées. Aujourd'hui, c'est la dernière étape de transition. Et ensuite, à partir de mercredi, on va vivre de grands moments, on l'espère évidemment, avec les Alpes et trois étapes très difficiles, dont la dernière est l'arrivée à l'Alpe d'Huez. Allez, c'est l'heure de la carte postale. On va voir ce que Georges Quirino nous demande de retenir dans ces magnifiques paysages et dans tous ces hauts lieux que nous visitons aujourd'hui. La carte postale.
À la rencontre de vos régions avec ERDF. ERDF au cœur des réseaux électriques de demain.
Alors Georges, qu'as-tu choisi comme élément de paysage ou élément du patrimoine historique de la France que nous visitons aujourd'hui?
Et d'où est-ce que j'enverrai ma carte postale sur l'étape du jour? Eh bien, lorsque nous étions tout à l'heure au kilomètre 48,5, on a ouvert grand les yeux à Cré, lorsque nous étions encore dans le département de la Drôme. On y est encore, on va bientôt le quitter. Pourquoi cette commune de 8100 habitants? Eh bien, pour sa tour qui domine la ville, la tour de Cré, qui a été construite entre le 10e et le 14e siècle. Elle domine la ville puisqu'elle mesure 52 mètres de hauteur. En fait, c'est le plus haut donjon médiéval d'Europe, et on pouvait encore plus le remarquer parce que la ville avait décidé de dérouler un magnifique drapeau bleu blanc rouge sur ces 52 mètres de la tour de tout là-haut, où vous pouvez voir notamment, vous avez une vue sur le parc du Vercors qui est juste à côté, et sachez que le tour est déjà arrivé dans cette ville de Cré. C'était Maurice Isier qui s'y était imposé, c'était en j'ai perdu la date. Voilà, ça m'apprendra à vouloir dire les choses. Voilà, j'ai perdu la date. Je l'ai écrite à moitié. Entre 1900 et 2015.
Voilà.
Entre
1900 et 2015. Avant ce matin,
je vais être plus précis. Ce sont les années 60.
Pas du tout. On étudie.
Ce sont les années 70.
Hein. Je vais vous mettre tous d'accord.
Les années 60, 70.
Pour 68 ou 72, je sais pas.
En 68, 68.
De toute façon, Georges et Cyril, vous avez sans contrepétrie aucune. Sur ce coup-là, vous avez le choix dans la date. Hein.
D'accord.
Ok.
Oui.
Sans contrepétrie aucune.
Ok, donc la tour de Cré, mais c'était derrière nous, ça. C'était ce matin, donc on l'a pas vu à la télé et on ne sait pas à quoi ça ressemble.
Comme ça, vous allez aller sur votre.
Exactement, mais j'y suis d'ailleurs.
Et
c'est magnifique.
Allez regarder.
Il est magnifique, magnifique donjon, donc la tour de Cré qui domine le village. Merci Georges pour la carte postale du jour. Très bien, on va refaire un petit top course.
On va juste mentionner un non partant ce matin et ça va faire plaisir à Georges, non pas parce qu'il n'est pas parti, mais sachez que Greg Van Avermaet, le vainqueur de l'étape d'hier, a quitté la course. Il avait prévenu au départ du tour à Utrecht, il est possible que je ne rallie pas Paris parce que mon épouse est enceinte et elle attend un heureux événement. Donc Georges, excellente nouvelle, il y aura un petit Van Avermaet qui viendra au monde dans les heures qui viennent, peut-être un futur champion, lui qui avait impressionné son Greg lors de la victoire à Rodez contre Peter Sagan. Le coureur belge flamand de l'équipe BMC n'est pas parmi les 170 rescapés du jour.
Et surtout il a précisé,
Cyril, il a juste précisé une chose. C'était avant-hier qu'il avait emporté. Hier, c'était Greipel.
J'ai pas dit hier.
Il a pas dit
avant-hier. Effectivement. Ouais. Et il a juste précisé, ça fait 10 ans que ma femme me soutient dans le cyclisme. Je peux bien faire ça pour elle. C'est la classe.
Quand même. Heureusement qu'elle a pas accouché plus tôt. Autrement,
il aurait pas
gagné. Peut-être que Peter Sagan aurait enfin remporté une étape. D'un autre côté, hein, il doit pas remercier Madame Van Avermaet, Peter Sagan. Mais bon, il n'a pas renoncé, puisqu'on vous le rappelle, il est à la tête de ce groupe. Enfin, dans ce groupe. En tous les cas, avec 22 autres échappés qui comptent quasiment 11 minutes d'avance désormais. Comme tous les jours, dans quelques minutes, je vais vous demander vos idées pour l'étape du jour, le titre de l'étape du jour. Messieurs, dames de la Dream Team, réfléchissez bien. Et puis vous aussi, sur le hashtag RMC Live, j'ai déjà quelques petites propositions. Ce sera donc le 16e épisode de ce Tour de France qui en compte combien ? 21 épisodes. On s'approche de la fin de ce Tour de France, mais hier, évidemment, avant le 16e épisode, c'était le 15e. Et la victoire au sprint du gorille de Rostock, André Greipel. On va revivre ça. C'était hier dans l'Intégral Tour.
RMC, précédemment dans l'Intégral Tour de France.
Les amoureux du vélo reconnaissent l'allure de Moncoucou, comme l'appelaient ses coéquipiers, David Moncoutier. Pro toute sa carrière, c'était 16 saisons pro chez Cofidis, début professionnel en 97. C'est Cyril Guimard qui t'avait fait passer.
Exact.
Cyril,
il va se souvenir de moi.
Il avait eu le nez creux, Cyril.
Cyril.
Oui, excusez-moi, parce que...
T'es en train de manger, non?
En écoutant David, je lèche une glace.
Ok, on va te laisser.
Je l'ai fini, parce que je vais la finir avant, parce que avec la chaleur qu'il fait, je vais pas en avoir plein les doigts quand même, quoi.
Ouais.
je lèche une glace.
Cyril, Degen Kolb est-il le plus rapide de tous ceux qui sont encore dans le peloton en ce moment, Cyril Guimard?
Non, je ne pense pas que ce soit le plus rapide. Si c'était une arrivée sur un faux plat montant, pourquoi pas, mais le plus rapide, ça reste Greipel. Je lèche une glace.
Intégral Tour, la flamme rouge.
Les Katyusha, 800 mètres de la ligne d'arrivée, qui conduisent un peloton en file indienne. Deuxième position en ce moment pour Alexander Christophe, le roi, le maître, l'épouvantail du début de saison 2015. Ouais. Toujours Fadi sur
Coquart est loin.
Dans la roue de Christophe, on trouve André Greipel. Peter Sagan est en 4. Degen Kolb en 5. Michael Matthews en 6. Tyler Farrar vient se positionner pour l'équipe MTN Kubeka. Brian Coquart est un petit peu plus loin. Toujours un homme de l'équipe Katyusha pour emmener Alexander Christophe. On est à 400 mètres de la ligne d'arrivée. Les MTN Kubeka ont pris confiance avec la victoire de Stephen Cummings hier. Il lance le sprint avec André Greipel qui déborde sur la gauche de la route. Est-ce qu'il va faire la passe de 3? André Greipel à la lutte avec John Degen Kolb, son compatriote allemand de l'équipe Giant Alpecin. Mano à mano royal entre Greipel et Degen Kolb, alors qu'Alexander Christophe vient se mêler à la lutte. Victoire d'André Greipel, troisième succès pour le gorille de Rostock. Victoire sans coup férir, en résistant au retour de John Degen Kolb. Le solide sprinter de l'équipe Lotto Soudal vient s'imposer devant John Degen Kolb, impuissant, et Peter Sagan ainsi qu'Alexander Christophe. Sprint royal ici à Valence.
RMC Intégral Tour.
Je lèche une glace.
Je lèche. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as encore une glace aujourd'hui, Cyril, ou ça va mieux là? Refais-nous un petit...
Non, il aime pas. Il est très vexé là normalement. Hein. On le connaît, le druide. Hein. Il aime bien rire, mais pas de lui.
Il a coupé son micro, il est parti. Il léchait donc une glace, c'était hier dans l'étape.
Il léchait une glace.
Je lèche une glace. Très bien, allez, on va se quitter quelques instants. Vous réfléchissez bien pour le titre de l'épisode 16 de ce Tour de France. Et dans quelques instants, les meilleurs titres seront lus à l'antenne. Il est 15h24. On vous rappelle que 23 hommes sont à l'avant et qu'ils comptent désormais 11 minutes et 30 secondes. D'avance, juste le nom des Français qui sont dans le groupe et des principaux coureurs.
Riblon pour AG2R, Fédrigo et Perrichon chez Bretagne Séchée, et l'inévitable Thomas Vauclair qui se disait malade hier soir. Mon œil.
Oui, cette nuit à 4h du matin, il a envoyé un tweet: je prends de l'aspirine, j'ai mal à la tête, j'arrive pas à dormir. Ben finalement, ça lui réussit pas mal. Allez, 15h24, on se retrouve dans quelques instants dans l'Intégral Tour pour cette 16e étape du Tour de France à 76 km de l'arrivée à Gap.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'Intégral Tour avec la 16e étape de cette grande boucle au programme en direction des Alpes, puisque le peloton arrivera tout à l'heure à Gap dans les Hautes-Alpes aux alentours de 17h-17h30. Nous suivons évidemment l'intégralité de cette étape entre Bourg-de-Péage et Gap. Fred, on va faire un nouveau point de la situation qui se stabilise et qui a même tendance à être encore un peu plus avantageuse pour nos 23 hommes de tête, car leur avance continue de croître.
Oui, 75 km à parcourir sur cette étape longue et chaude et escarpée dans son final. Bourg de Péage, Gap, 201 km, il en reste 75 donc à couvrir, et un gros groupe d'échappés a mis du temps à se dessiner, mais il a vu le jour et il a pris du champ, puisque les Sky de Christopher Froome, le maillot jaune, ont décidé de laisser des bons de sortie à ces 23 coureurs, dont 4 Français. Christophe Riblon chez AG2R La Mondiale qui se remet c'est un homme de troisième semaine. Souvenez-vous, il y a deux ans, il avait remporté l'Alpe d'Huez à quelques jours de l'arrivée à Paris. Également présent, deux coureurs de l'équipe Bretagne Séché Environnement, Pierre-Luc Perrichon et le franc-tireur, le chasseur Pierrick Fédrigo et quatrième français, l'inévitable Thomas Vauclair.
On va tout de suite à la moto. Georges est en compagnie d'un directeur sportif, me semble-t-il.
Exactement, on va essayer de se rapprocher de la voiture à J2R la mondiale de Vincent, de Julien Jourdi. Voilà, Julien Jourdi qui est à côté de nous. Bonjour Julien.
Bonjour.
Bon, avec Christophe Riblon dans cette échappée aujourd'hui, c'était une échappée qui peut aller au bout là pour vous pensez?
Ouais, effectivement, cette échappée va se disputer la victoire d'étape à Gap. On le savait depuis le départ au briefing. Je pense que toutes les équipes étaient vraiment très concentrées et très appliquées pour être présents. Voilà ce qu'on retrouve à l'avant, 24 coureurs comme en 2013, ils étaient 26 à 24. Donc une fois de plus, ça va sûrement bagarrer dans le final pour aller chercher cette victoire d'étape.
On n'a pas encore trop vu Christophe Riblon sur ce Tour de France. On se rappelle qu'il avait gagné à l'Alpe d'Huez. Comment est-il cette année? Quels sont ses objectifs?
Ben Christophe pour l'instant n'avait pas des super sensations depuis le départ du Tour. J'espère qu'aujourd'hui ça sera un peu mieux, parce qu'il va falloir être bien pour remporter cette victoire d'étape. Voilà, c'est vrai que Christophe est en manque de repères depuis quelques mois. Voilà, bon, c'est un excellent capitaine de route et ça serait vraiment bien pour finir cette deuxième semaine de remporter une victoire d'étape. Voilà, c'est un gagneur, donc si Christophe a les bonnes jambes, il peut mettre dans le mille, parce que c'est quelqu'un qui sait très bien courir. Voilà, et puis bon, il a l'expérience du Tour, deux victoires d'étape déjà pour lui. Ça, c'est important dans un final quand ça va jouer avec tous les autres. C'est quand même important d'avoir un certain sens tactique.
Des nouvelles de Jean-Christophe Perrault, Julien, on l'a vu encore en difficulté hier après sa chute d'avant-hier. Comment il va? Est-ce qu'aujourd'hui vous attendez une journée difficile pour lui?
Ben souvent après une grosse chute, c'est souvent la deuxième journée qui est difficile. Ça a été le cas hier où on l'a vu vraiment en difficulté dès le départ. Il s'est bien accroché comme d'habitude pour finir dans le groupe Eto. Aujourd'hui ça a l'air d'aller un petit peu mieux. J'ai un médecin, la journée va être plus simple pour lui. On voit que les écarts sont en train de monter avec le peloton. Demain, la journée de repos va lui faire beaucoup de bien. Et puis après, on verra mercredi dans quel état physique il est pourquoi pas faire une ou deux belles étapes dans les Alpes.
Julien, dernière question. Vous suivez un Christophe, là? Il pourrait y avoir un autre Christophe, un dixième à J2R la mondiale. On a vu Christophe Galtier, l'entraîneur de Saint-Etienne, avec le maillot d'à J2R la mondiale aujourd'hui. Je suis le confrère du Parisien. C'est un ami à vous, l'entraîneur de Saint-Etienne.
Ouais, Christophe. On échange pas mal avec Christophe en étant stéphanois. Voilà. Il adore le vélo. Voilà, j'avais envie de le mettre au vélo. Donc, il a la tenue complète de l'équipe. C'est sympa. J'espère qu'à rentrant, on pourra faire un petit tour de vélo avec Christophe.
Ouais. Bah, vous n'avez pas le maillot de Saint-Etienne aujourd'hui, mais vous auriez pu.
Non, j'ai pas mis le maillot de Saint-Etienne aujourd'hui, mais un fidèle supporter de la SSE.
Il a le tatouage. Merci beaucoup, Julien Jourdi. Il a le tatouage, bien sûr. Qui a le tatouage? Le directeur sportif de la formation à J2R mondial qui suit Christophe Riblon dans cette échappée. On est dans l'ascension, Christophe, du col du Cabre.
Très bien. Merci, Georges. À tout à l'heure. 15h31. On va tout de suite aller retrouver notre ami Lucho, qui lui, vous savez, a d'autres choses à penser que la course. Non, ce qu'il veut, c'est remplir la Lucho Mobile avant l'arrivée sur les Champs-Élysées.
RMC, le Tour de Gaulle de la Lucho Mobile.
Mon cher Lucho, comment ça va?
Salut à tous.
Bon, alors, tu es où aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as trouvé de bon pour nous lécher les babines?
Ah bah écoute, là je suis au pied du col de Mans, donc à 20 km environ de l'arrivée, et j'ai un petit écho par contre, mon titi, dans mon casque, pour que je puisse parler convenablement. Donc là je suis avec Jean-Louis Pellegrin, c'est Jean-Louis Pellegrin qui est un spécialiste des tourtons du Champsaur. Donc il a sa petite entreprise, Tourtons du Champsaur, et donc vous êtes plusieurs frères, parce que je vois Pellegrin et frère, donc vous êtes plusieurs.
En fait, on est deux frères. On a démarré l'entreprise il y a 30 ans, en fait, notre 30e anniversaire cette année. Comme ça fait 30 ans, on a démarré dans un petit chalet à la station de ski de Chaillol, qui est sur la photo d'ailleurs, vous ne pouvez pas la voir, bien entendu, mais... Et aujourd'hui, bon, on emploie dans la vallée du Champsaur 25 employés, on en fabrique, bon, on distribue dans le quart sud-est de la France et exceptionnellement de temps en temps dans toute la France.
Et donc alors dites-moi la spécialité, donc c'est le tourton, et le tourton, vous le faites comment? Vous le préparez comment?
En fait, le tourton, c'était à l'époque le repas de Noël. Ça s'appelait les coussins du petit Jésus. Et ensuite c'est devenu le repas des travaux des champs. Et maintenant c'est la spécialité des Hautes-Alpes. C'est fabriqué avec une pâte très fine, fourré à différentes choses, pommes de terre, épinards, chèvres, reblochons, épinards, pruneaux et pommes.
Bon, allez. Alors là, sur les plateaux, il y a quoi? Il y a les tourtons à quoi, là?
Sur les plateaux, j'en ai du sucré, comme c'est 16h, j'ai préféré amener du sucré, pommes, choco-noisettes, myrtilles, framboises.
Et donc, vous avez un filet en carton que je puisse emmener au camion RMC.
Vous pouvez les déguster en arrivant. Vous enfilez même peut-être deux cartons. Comme vous êtes peut-être nombreux, vous enfilerez à vos collègues.
Oh, ah, ça, c'est sympa, ça.
Donc ça marche vraiment fort. Ça. Alors, les tourtons, oui, parce que ça fait longtemps que vous existez. Donc, 25 employés, c'est pas rien. Donc, vous les fabriquez, vous les vendez dans les marchés, tout ça.
Ouais, c'est ça. On est
sur les marchés.
On les vend sur les marchés, on les vend dans les restaurants et on les vend aussi dans tout ce qui est magasin.
D'accord, d'accord. Et donc, mis à part les tourtons, vous faites autre chose ?
On fabrique aussi les ravioles. C'est les ravioles, c'est à la forme d'un trait allongé, une forme allongée, avec pomme de terre, fromage, des œufs, de la farine et une pointe d'ail. C'est roulé et c'est frit. Et on fabrique aussi des oreilles d'âne. C'est un gratin, comme des lasagnes, avec pâte à crêpes, crème fraîche, béchamel, épinards, fromage, noix de muscade.
Oh là
c'est
là
une
là
spécialité là aussi du coin, là.
Ouais.
Tout à fait une spécialité de la vallée du Champsaur. D'accord, voilà, tu vois.
Ouais, ça a l'air bon tout ça.
Produit de la vallée du Champsaur. Mais par contre, vous.
Rapidement, Lucho, rapidement.
Ouais,
hein.
Rapidement, au niveau de la boisson, qu'est-ce que vous prenez avec un petit rouge, avec un petit verre de rouge avec les tourtons. Bon, ben voilà, tu sais tout, vous savez tout.
Oui,
je vous ramène mes petits cartons qui vont bien avec. Les petits chocolats, la pomme, la myrtille et compagnie. Et puis voilà, on va se régaler tout à l'heure au camion RMC.
Très bien, tu dis merci au monsieur pour le carton que l'on va déguster.
Bien, merci.
Voilà, ce soir. Puis ça sera mieux que ton fromage qui nous a enfumé le camion pendant 3 jours.
T'étais bien content d'en goûter. Hein, comme tout
exactement.
Monde,
hein, mais on t'a dit de le reprendre dans ta chambre, t'as pas voulu. Hein, allez, à tout à l'heure, Lucho. En tous les cas, rassurez-vous, on a fait la photo. La photo, c'était le plus important. Du Tour de France, on a fait la photo pour Lucho hier. On va la mettre sur
le fromage.
On va la mettre sur le RMC Live, évidemment, la photo de toute l'équipe d'RMC sur ce Tour de France. 72 km 800 encore à parcourir, 12 minutes 16 d'avance. C'est l'heure, messieurs, de trouver un titre à cette 16e étape du Tour de France, le 16e épisode. On va donc commencer, messieurs, dames. Pardon, Fred n'a pas d'idée. On va. Ah oui, Pierre-Yves. Mais Pierre-Yves, il réfléchit dans la voiture. C'est une tête pensante de cette équipe.
En conduisant. J'avais pensé au début à Alpes, à la polémique, parce qu'il se passe beaucoup de choses autour du Tour. Et puis finalement, vu l'échappée, je me suis dit, parce que c'est peut-être une des dernières possibilités pour ce coureur qui marque le Tour de France depuis des années. On n'est pas certain qu'il soit encore là l'année prochaine. Ouais. Thomas Voigtler, tout simplement.
Très très bon.
Thomas Voigtler.
Très bon.
Très bien, Thomas Voigtler donc pour notre ami Pilou. Fred a trouvé un titre. Ah, il est fort.
Oui, oui, oui. On se souvient que la descente de la Rochette qui précède l'arrivée à Gap avait fait des dégâts. Voilà 12 ans, nul n'a oublié la fameuse chute de José Babelocchi dans ce virage à droite à cause du goudron fondu, chute qui avait occasionné le tout droit dans un champ de Lance Armstrong, une chute restée célèbre, alors que Rafał Majka, le vainqueur de l'étape de Cauterets, le meilleur grimpeur du Tour, est en train de souffrir à l'arrière du peloton
puisqu'il a chuté
dans une portion montante. Il est allé tâter du bitume, apparemment un peu vexé aussi le grimpeur polonais. Il repart, mais il s'est fait mal au genou gauche, le genou ensanglanté, coéquipier d'Alberto Contador. Contador qui pourrait avoir des idées derrière la tête tout à l'heure dans le col de Mans à quelques kilomètres de l'arrivée. On se souvient qu'il y a 2 ans, Contador en avait mis une petite dans ce fameux col de Mans. Alors je vous parlais de la Rochette pour le titre. Je vois bien une nouvelle passe d'armes dans la Rochette, et la Rochette referait des siennes. La Rochette refait des siennes. Le titre du jour.
La Rochette refait des siennes. On vous rappellera dans quelques minutes si c'était passé en 2003, l'année de la, non pas de la clavicule, mais de la canicule. Voilà pour Frédéric Adam. La Rochette refait des siennes. Cyril Guimard, notre druide, a-t-il une idée de titre pour l'épisode du jour, Cyril?
Oui, ça y est, je me réveille. Ouais, parce que Lucho, il m'a endormi. J'ai piqué du nez un peu. Mais c'est normal avec la chaleur. Oui, alors j'en ai un. Oui, bien sûr, j'en ai un. Bien sûr que j'ai un titre. Alors, vous savez, je pense beaucoup à ce coureur dont j'ai dit hier qu'il vivait un calvaire en enfer.
Je suis en train de piquer du nez, là.
Jean-Christophe Perrault. Et le titre que j'ai trouvé, c'est le Cap de Bonne Espérance. S'il passe aujourd'hui l'étape de repos, il verra Paris.
Le Cap de Bonne Espérance pour JC. Hein, préciser. JC Perrault évidemment, dont on vous parlera tout à l'heure. Merci Cyril pour ce titre donc de l'épisode du jour. Et puis Georges Quirino sur la moto, lui aussi, lui qui est au contact des coureurs, il a sûrement de très bonnes idées à nous proposer.
Oh, moi je crois beaucoup comme Fred à la descente de la Rochette tout à l'heure qui refera des siennes. Donc je proposerai tout simplement la descente aux enfers, et s'il se passait quelque chose dans le peloton tout à l'heure.
La descente aux enfers.
C'est pas beau, Georges. C'est pas beau d'espérer des drames.
J'espère rien.
C'est pas bien ce que tu fais.
Je rappelle que Monsieur Adam a proposé la chute de Froome l'autre jour en titre. Donc je n'ai pas de leçon à recevoir de vous.
Oui, surtout qu'il propose un titre qui ressemble quand même. La Rochette refait des siennes. Non, mais toi, c'est pas au niveau de la chute.
Oui.
C'est
peut-être très, au niveau très de... bien, très bien, Georges, de répondre.
Ah, mais
bonne défense.
J'ai jamais dit qu'il y aurait une chute. Hein. Ça peut être. On peut perdre du temps.
C'est à ça que je pensais.
Aucun sous-entendu.
Je pense qu'il va se passer quelque chose dans la Rochette. On est d'accord, mon Giorgio.
Très bien, j'ai plein de propositions, je vous les donnerai dans quelques instants. Philippe est avec nous au 32-16. Lui aussi a une proposition à nous faire. Il est inspiré par l'étape du jour. Salut Philippe.
Salut. Un petit clin d'œil. Gap en anglais, ça veut dire le trou. Et moi, je disais, pourquoi pas un truc du style gap de points, les Français hors du trou. Parce que c'est vrai qu'on s'est fait avoir par les Anglais quand même... il y a deux jours là, avec une arrivée qui était terrifiante pour Thibaut Pinot et pour Romain Bardet, avec un Anglais qui les grille là, donc voilà. Mais bon, c'est peut-être un peu trop recherché pour vous, non?
Non, je mettais juste une petite réserve, c'est que
gap c'est l'écart plutôt.
Gap c'est l'écart, alors oui, dans le langage cycliste.
Quand on arrive, c'est mind the gap. Faites attention au trou. Vous savez, dans le métro londonien.
C'est vrai.
Mind the gap.
Ouais.
Faites attention au trou aussi. Ça veut dire les deux. Hein.
Très bien.
Initialement, je m'étais dit Froome fait le gap, mais en fait, aujourd'hui, ils ont laissé sur tout le monde, et donc c'est un Français qui va gagner. Donc voilà. Petite position.
Eh ben, on espère évidemment qu'un Français va l'emporter tout à l'heure, Philippe, parce que on peut pas dire que pour l'instant, ce Tour de France 2015 dont on attendait beaucoup pour les Français, c'est un peu, hein. c'est pas extraordinaire. Merci Philippe, en tout cas, d'être venu au 32-16 pour cette proposition. À bientôt. Et évidemment, on est toujours ravis de vous avoir au téléphone avec ces propositions, avec également sur le hashtag RMC Live, plusieurs autres propositions. Qu'est-ce qu'on a? Sébastien qui nous dit gap à l'est pour les forçats de la route. Despélance qui nous dit gap, tout le monde descend. Oui, tout le monde descend vers gap, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant? Gap sur les Alpes, nous dit Victor. Alors là, il faut que je redescende un peu plus bas. Je vous en donnerai d'autres tout à l'heure, mais effectivement, beaucoup sur le gap et la descente de la Rochette. Fred, 69 km à parcourir. L'avant-dernière difficulté du jour a été franchie par les hommes de tête.
Oui, la première difficulté du jour, le col de Cabre en deuxième catégorie, long de 9 km, très roulant. La tête de course, les 23 hommes de tête sont dans la descente à 69 km de l'arrivée. Il se passe des choses dans ce groupe de tête parce que Peter Sagan, l'acrobate slovaque avec son maillot vert sur le dos, l'homme qui sait tout faire sur un vélo, que ce soit un wheeling, du sur place du trial, est en train de faire la descente du col de Clap et il est en train de mettre tout le monde en file indienne. Grosse prise de risque de la part de celui qui bute sur les deuxièmes places. Il en est, on le rappelle, à 4 deuxièmes places pour aucune victoire depuis le départ d'Utrecht. Peter Sagan qui fait souffrir ses compagnons d'échappée à 68 km de l'arrivée. Il n'emmène dans sa roue en ce moment que le Norvégien Edvald Boasson-Hagen. Les autres tirent la langue en direction de la vallée du Buëch avant l'arrivée, dans 68 km maintenant à Gap.
Cyril, drôle de stratégie quand même employée par Peter Sagan depuis plusieurs jours, lui qui tourne autour de la victoire d'étape. Hier, il a terminé quatrième, mais à chaque fois, il est dans l'échappée. Alors, évidemment, on sait qu'il veut ramener ce maillot vert à Paris, la formation de Tinkoff-Saxo qui envisageait même de rapporter à Paris le jaune et le vert. Pour le jaune, ça va être compliqué, mais pour le vert, c'est quasiment dans la poche. Mais c'est quand même étonnant de voir Sagan dans toutes les échappées quasiment depuis le début de ce Tour de France.
Bien étonnant, il a un objectif, c'est le maillot vert. Il en avait un deuxième, bien sûr, c'était de gagner des étapes. Mais pour aller chercher le maillot vert, il faut se battre pour les victoires d'étape. À chaque fois, il est tombé sur un homme plus rapide que lui, au moins à 4 reprises. Il a fait 2 fois 3e, 2 fois 4e, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir un pécule relativement important. Et puis il s'est dit... je ne vais pas prendre de risques. Je suis relativement frais parce que il est relativement frais parce qu'on ne fait pas ce qu'il fait si on n'a pas une bonne une bonne réserve. Donc il a sauté dans tous les coups qui partaient pour aller chercher les points en milieu d'étape. Et il a parfaitement raison. Ce qu'il veut tout simplement, c'est avoir une marge suffisamment importante pour la dernière étape sur les Jeux, de façon à ce qu'au cas où il raterait son sprint sur les Jeux Olympiques, il ait plus de 50 points d'avance sur Greipel, sur les Champs-Élysées. Oui, pardon.
Oui. Ah oui, il confond les Jeux Olympiques.
Ah non, mais il a un coup de mou, demain journée de repos, c'est bien compréhensible. La journée de repos, c'est pas que pour les coureurs.
Ah non, mais j'avoue que j'ai piqué du nez.
Oui,
amenez-lui une glace à Cyril, vous savez.
Vous savez ce qui m'a réveillé?
La glace?
Non, vous avez parlé de chute, donc j'ai ouvert les yeux et j'ai vu Machka par terre. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit, soit il y a les bidons qui vont voler, il y a les bidons qui. Eh ben non, ils étaient calmes dans l'encadrement de Tinkoff.
Alors, oui.
Ils avaient plus de bidons.
Sur le même type de scénario, un dépannage de vélo chez Tinkoff Saxo hier à l'arrière du peloton de la part de Peter Sagan. Eh bien, l'encadrement de Tinkoff Saxo, c'était d'ailleurs avant-hier, c'était hier. Le directeur sportif de Peter Sagan chez Tinkoff Saxo, un peu irrité de voir la moto rester au contact de Sagan qui change de vélo, a visé le cadreur.
Non, c'est pas le directeur sportif, c'est le mécano.
Bon.
Mais c'est le directeur sportif qui a été exclu.
Moi, je crois.
C'est bien le mécano. Et le mécano qui a jeté le bidon. En tant que responsable de son personnel. Okay.
Pour info, tiens, tu parles de ça, Cyril, c'est intéressant. On a revu exactement la même image, sans Sagan, puisqu'il est à l'avant de la course, mais avec Alberto Contador, tout à l'heure, à une quinzaine de kilomètres du col de la Clap, col de Cabre. Alberto Contador, le leader de l'équipe Tinkoff Saxo, qui sans raison apparente, une fois de plus, est descendu à l'arrière du peloton et a demandé à changer de vélo, ce qui ne cesse d'alimenter les soupçons plus ou moins fondés, mais tout de même c'est une drôle d'habitude qu'a Contador de changer de vélo en cours d'étape.
C'est logique parce qu'il veut que en prenant deux vélos par étape, en fait, il ne fatigue pas les vélos qui ont un temps de récupération.
Il les use pas. Non, c'est très étonnant. Je pense, si il n'y avait pas tricherie de la part de Tinkoff Saxo, je pense qu'on pourrait faire l'économie de ce genre d'opérations de manipulation quand on sait le débat qui existe en ce moment parmi les suiveurs du Tour. Dopage mécanique, pas dopage mécanique. Contador n'a peut-être pas vu très clair. Il joue pas le meilleur rôle d'ambassadeur qui soit.
Et Cyril, est-ce qu'on sait s'il y a des contrôles opérés sur les vélos du Tour de France? Parce que on n'a pas beaucoup vu les gens de l'UCI traîner. On se souvient qu'il y a quelques années, il y avait ce portique dans lequel on faisait passer les vélos, le scanner en quelque sorte, pour voir s'il y avait des moteurs à l'intérieur. Bon, a priori, la mécanique aurait changé, mais on n'a pas beaucoup vu de contrôleurs de l'UCI depuis le début de ce Tour de France. Alors, ils font ça en cachette, ils font ça le matin, à l'hôtel, ou à l'issue des étapes. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ces contrôles?
Il y a eu, sur la première partie du Tour de France, il y a eu des contrôles de bicyclettes. Depuis Plumelec, je n'ai pas entendu dire qu'il y en avait eu de nouveaux.
Ouais, c'est-à-dire que depuis la Bretagne, ils ont abandonné les contrôles. Peut-être reviendront-ils d'ici la fin du Tour de France. Mais en tous les cas, c'est tenu secret, hein, Fred. Hein, personne ne sait où auront lieu ces contrôles.
Évidemment,
et qu'il
c'est comme un contrôle antidopage. C'est inopiné. Ouais. Faut que ça arrive à la dernière minute. Faut que personne soit au courant. Et évidemment, ça se fait à l'abri des regards indiscrets. On est à 63 km de l'arrivée.
Ce qui est dommage, hein, parce que je ne vois pas pourquoi. On contrôlerait pas les vélos devant tout le monde. Il n'y a pas à avoir une forme de secret. Alors que là, on enferme le vélo avec des commissaires. Je ne sais pas pourquoi. Il est possible. Regardez, avant un contre-la-montre, vous allez faire vérifier vos vélos, non pas pour les problèmes de moteur, mais tout simplement pour les problèmes de respect de règlement sur les différentes cotes minimales pour les vélos de contre-la-montre. Mmh. Ben, on le fait au vu, au sus de tout le monde. Si on veut contrôler un vélo, pourquoi ne pas le faire devant tout le monde?
Oui.
Ou alors, s'ils en trouvent un où il y en avait dedans, ils voudraient peut-être pas le dire. Je sais pas, je trouve ça bizarre.
En tout cas, peu de contrôle, c'est vrai, depuis le départ du Tour. C'est ce que certains consultants ont d'ailleurs dénoncé à propos de Chris Froome. 63 km de l'arrivée, toujours 23 hommes en tête, dont les Français Thomas Vauclair, Pierre-Luc Perrichon et Pierrick Fédrigo, ainsi que Christophe Riblon. Peter Sagan, le maillot vert, est dans cette échappée. C'est lui qui a fait la descente et qui a fait prendre des risques à tous ses compagnons d'échappée. Ses compagnons d'échappée qui sont venus lui tirer les oreilles au bas de cette descente du col de Cabre, l'entrée de la course dans les Hautes-Alpes. On a vu l'Italien Matteo Trentin de l'équipe Etix Quickstep venir semoncer vraiment Peter Sagan en lui disant mais à quoi tu joues, pourquoi tu nous as mis dans la caillasse comme ça. Et Peter Sagan en bon benet qu'il est, parce qu'il est assez badaud ce coureur, il a une tête de nounours, certains l'appellent Forrest Gump dans le peloton. Il a expliqué que ça va, je me suis fait plaisir. C'est un acrobate, ouais, c'est un artiste du vélo, et lui qui vient du VTT, qui sait vraiment tout faire sur un vélo, s'est fait plaisir.
C'était pas pour s'échapper, hein, c'était juste pour s'éclater dans la descente.
Comme il pouvait pas lever sa roue avant comme il adore le faire en descente, et ben il s'est couché sur son vélo avec des trajectoires de dingue. Showman, ce Peter Sagan.
Allez, il est 15h. Bon, Trentin n'était pas obligé de le suivre, hein, il pouvait très bien le laisser partir. Ben oui. Je vous rappellerai quand même que Trentin, c'est lui qui a attaqué hier dans le col à 60 km de l'arrivée. C'est lui qui a attaqué. Il a pas. Ouais. Il y avait là Peter Sagan qui lui ne l'a pas suivi.
Très bien.
Donc c'était normal pour lui hier, c'était pas normal aujourd'hui pour Sagan.
Allez, on va se retrouver dans quelques instants. Il est 15h49 sur RMC. Retour de cette 16e étape, l'Intégral Tour. C'est dans un instant, à tout de suite.
RMC, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
La 16e étape de ce Tour de France aujourd'hui entre Bourg de Péage et Gap. Les Hautes-Alpes vont être atteintes tout à l'heure par les coureurs du peloton. Et on vous rappelle qu'il y a un groupe à l'avant qui compte quasiment 13 minutes d'avance à 59 km de l'arrivée. Georges sur la moto RMC a une petite image de ce qui se passe à l'avant. Ça va, ça s'arrange entre Sagan et ses compagnons d'échappée?
Oui, Sagan en plus qui peut être tranquille puisque la voiture Tinkoff Saxo s'est arrêtée derrière lui pour satisfaire un besoin naturel, avec Oleg Tinkoff notamment. Le patron est encore là dans la voiture, comme il y a deux jours, le mania russe qui surveille de près sur la fin de ce tour les agissements en tous les cas de ses coureurs, d'Alberto Contador et notamment de Peter Sagan qu'il avait déjà suivi l'autre jour. On est arrivé dans la vallée au bas de cette descente. On est toujours sur les températures assez élevées, aux alentours de 33 degrés. On voit un Thomas Vauclair qui est resté à l'arrière de ce groupe, et Pierre-Luc Perrichon, il y a quelques instants, le coureur de la formation Bretagne Sécher Environnement, qui a dû s'arrêter pour un problème de vélo. Visiblement il a changé de vélo, le coureur de la formation.